CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Il est demandé aux nouveaux venus dans cette émission de respecter les règles précises. Quand la lumière rouge s'allume, on se tait et on laisse parler ceux qui savent. Qu'est-ce qu'on déguste avec Pascal Olivier, bonjour.
Salut à tous.
Comment ça va?
Ça va bien.
Au programme aujourd'hui?
Oh ben on va faire une petite recette, on va parler du rosé de Monteils qui a une médaille d'or au mondial des rosés, donc on va y revenir. Je vais vous parler d'un petit bouquin sur la cuisine espagnole qui s'appelle La Movida, cuisine familiale espagnole, où il y a des recettes, à se taper le cul par terre, et puis on va parler de plein de choses.
D'accord, bonjour Christophe.
Bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde.
Au programme.
Je vous parle du dernier album des Daft Punk qui est sorti
lundi. Non, t'as dit que c'était de la merde sur Facebook.
Mais je vais le dire à la radio.
Tu vas le dire.
Après l'avoir mis sur Facebook.
Persiste et signe. Qui est à ta droite, Pascal?
Elle s'appelle Ève. Elle a 18 ans et demi.
Elle vient de Paris.
C'est
une petite parisienne.
Qui est venue en vacances à la ferme.
Ouais.
D'accord.
Elle va nous faire une recette. Excellente cuisinière.
Je vais vous parler de mes radis.
D'accord. Ah, très bien.
Soupe de radis.
Très bien. Parce que pour s'asseoir à cette table, il ne s'agit pas que de boire des coups. Il faut aussi donner un petit peu de sa personne.
Ouais. Il faut manger. Si on boit, on mange.
D'accord. Oui. On va voir ça. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Romain. Salut Philippe.
Salut, bonjour à tous.
Comment ça va?
En pleine forme.
Ravi de te recevoir enfin avec ce pur Syrah, qui n'est pas un nouveau vin de la gamme du domaine de Monteils. Ça fait un petit moment que tu le développes.
Ouais, 33e millésime.
Et donc, 3 ans, finalement, c'est la maturité, puisque cette année, médaille d'or au mondial de rosé.
Je ne sais pas si c'est la maturité, en tout cas, ouais, c'est une progression. Mm-hmm. C'est une belle progression.
Alors, t'as commencé deux fois argent et une fois or.
Oui, c'était un lot bien particulier qu'on avait sélectionné, une parcelle bien particulière, une méthode de vinification bien particulière.
Tu vas nous expliquer ça.
Oui, avec grand plaisir. Et 2 ans de suite, on prend une argent au mondial du rosé. Alors, on était super fiers. Première fois, on croyait que c'était un coup de chance. Deuxième fois, on se dit, on a peut-être un bon process. Et troisième fois, bon, c'est une forme de consécration. Donc, tant mieux, hein, tant mieux.
Ouais, ils vont se la péter.
Le cépage du pur Syrah.
Le sépare du pur Syrah.
100% Syrah.
Qu'est-ce qu'on déguste? Mon verre est vide, mais ça commence comme ça. Il faut ouvrir là maintenant.
D'accord.
Ça va pas du tout.
Mais non. Là,
on n'est pas en rythme là, ça va pas.
Oh,
voilà un bruit qui les sympathise.
Merci.
Ils sont canadiens, ils viennent de Toronto. C'est une merveille électro-pop psyché que j'ai découvert sur le dernier CD offert avec les Inrecuptibles. Il s'appelle Ostra. Le morceau s'appelle Homme et leur dernier album Olympia. Ostra.
Pourquoi, santé, pourquoi est-ce que sur les Inrock, les gens disent toujours ouais, du temps où c'était les Inrock, où les Inrock c'était bien, où on pouvait avoir leur avis, pourquoi?
Au départ, c'était un magazine vraiment de référence qui sortait tous les deux mois, avec des longues, longues interviews, des fois ça durait 15 pages, et c'était du sérieux, c'était vraiment quasiment strictement musical, et ça faisait partie vraiment de... C'était la référence.
Et c'était quand ça?
C'était du costaud, là, c'était il y a...
Une dizaine d'années.
Plus.
Ouais. C'était il y a 20 ans.
Il y a 15-20 ans, ouais, voilà. Voilà. Après, ils sont passés mensuels, c'est devenu un peu moins bien, tous les 15 jours encore moins, maintenant c'est chaque semaine, bon, c'est pas mal quand même, ça reste un magazine de qualité, mais maintenant ça fait plus penser à Télérama, quoi, ils parlent de cinéma, de politique.
De politique.
Et de Jésus-Christ.
Ils se mêlent
de
tout.
Alors, mon cher Philippe, nous avons donc dans nos verres ce rosé, donc pur Syrah, du domaine de Montéis, un de tes vins, dont tu es le plus fier en ce moment. Oui. Combien tu as combien de vins?
14 cuvées.
Ah oui.
Entre les rouges, les blancs secs, les blancs moelleux. Les rouges passés en barrique, les rouges pas passés en barrique, et puis mon nouveau domaine de Cahors, donc ça fait pas mal de choses, quoi.
Eh ouais. Alors, le rosé, qui, comme chacun le sait, est fabriqué en mettant un petit peu de rouge, un petit peu de blanc.
Hein? Voilà. Continuons.
Continuons. Ça fait du rosé.
Voilà, il faut savoir, si je peux me permettre, hein, parce que le rosé, c'est ni plus ni moins une dissolution des anthocyanes, de la matière colorante qui est sur la peau du raisin et qui va se dissoudre doucement et lentement pendant une mini période de macération qui peut durer de 2 heures à une nuit.
Et le fer à dissous, c'est pas cher.
qui était peut-être les premiers vins de l'Antiquité.
Et qui étaient peut-être les premiers vins de l'Antiquité, effectivement.
Quand on parle de rosé, on l'a dit 10 fois à ce micro, mais on le redit parce qu'on a des auditeurs nouveaux aussi, puis il y a certains qui n'étaient pas majeurs avant, qui n'avaient pas le droit de boire du vin, maintenant ils peuvent.
Il y en a qui n'ont rien compris aussi.
On dit rosé de saignée ou rosé de pressé, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Alors
le rosé de saignée, c'est ni plus ni moins du raisin qu'on ramasse, qu'on met dans une cuve vin. Par le poids du raisin, les baies s'éclatent, le jus coule, le jus prend la couleur au contact de la peau, d'accord? Et après, on saigne la cuve, ça veut dire qu'on ouvre la vanne, et le jus, bien entendu, passe par la vanne, et les parties solides restent dans la cuve. On appelle ça une saignée. Voilà, c'est un terme, je sais pas d'où ça vient à l'origine, mais en tout cas, on appelle ça une saignée. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes profils aromatiques qu'un raisin qu'on vinifie en rosé de pressé. Le rosé de pressé, on ramasse le raisin, on le met directement dans le pressoir et on presse. Donc, on a un temps de macération qui est moins important. Et donc, on a un produit totalement différent, surtout sur le profil aromatique et bien entendu sur la couleur.
Et donc, là, pour le pur Syrah, on est sur?
Pur Syrah, c'est une.
Là, il est coincé, là.
Non, je suis pas coincé. Je dis, on va dire, c'est un rosé
saigné pressé. Oui, voilà. Parce qu'il a une couleur quand même soutenue et un profil aromatique quand même qui est très très fort, très
ouais,
long.
Alors si vous voulez, c'est une mini macération pelliculaire, hein, avec derrière un pressurage.
Tu veux dire que il y a du pétrolane dedans?
Non,
parce que
pelliculaire vient de la pellicule.
Bah absolument.
C'est le premier rosé au pétrole.
Bien.
Donc là, tu fais macérer et après tu presses.
Voilà, exactement.
On a un
pressoir pneumatique, très moderne, qui nous a fait un bon au niveau de la qualité.
Ouais,
mais c'est pas que ça. Hein. Ce qui fait la qualité du rosé, c'est la qualité du raisin. Le raisin, il est dans la parcelle de Syrah qu'on a sélectionnée par chance, on va dire, ou par expérience, comme on veut. Et après, c'est vrai qu'il y a la technologie qui vient derrière et qui vient exacerber, on va dire, la qualité intrinsèque du raisin. Voilà. Là, on a les deux. Et alors après,
j'ai du mal parce qu'il a toujours des mots super compliqués. La qualité intrinsèque du raisin.
J'apprends
des mots nouveaux.
Mais excuse-moi d'être idiot.
Philippe Romain.
Il a des lettres.
Il a des lettres.
Alors attends. On distribue le dictionnaire de l'Académie à la fin de l'émission pour ceux qui n'auraient pas compris.
Oui, hein, parce que train sec, moi je connaissais les.
Toi, tu connais cul sec.
Les wagons mouillés, voilà. Les trains secs.
Donc là, attention, nous revenions à nos moutons. Donc là, c'est le meilleur des deux, le meilleur du rosé de saigné, le meilleur du rosé de pressé.
Oui, c'est-à-dire comme on, non, en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, on a un pressoir pneumatique moderne dans lequel on fait une macération pelliculaire et un semi-pressurage, mais avec un temps de macération de la cuve qui dure à peu près 7-8 heures.
Et ça, c'est un procédé unique à Montel.
Non, c'est pas un procédé unique à Montel. C'est un procédé qui se pratique pas partout. La seule chose, c'est que si tu veux, c'est le lien entre un terroir, cette technique de vinification, après des maîtrises de température relativement basses, et après la volonté de faire un rosé gourmand, un rosé sans trop d'acidité, un rosé riche, quoi, un rosé pour tous les plats, pas un rosé d'apéro basique.
Pas un rosé piscine.
Rosé piscine, c'est très bon et ça marche super bien. Donc,
comment ça, c'est très bon?
Moi, j'en connais qui, après de grandes journées de marche et de randonnée, ont des macérations pédiculaires, mais c'est pas la même chose.
Excellent.
Georges,
la macération pelliculaire, ça s'appelle du jus de chaussette.
Qu'est-ce qu'on écoute, Georges?
On va écouter d'abord une parole. Et après, je vais présenter.
Les poèmes sont faits de larmes, de souvenirs et de regrets. Les larmes, Charles Trenet les a offertes à notre jeunesse. Mais c'était des larmes d'amour. Depuis, les souvenirs construisent de hautes pyramides tristes. Et les regrets s'épanouissent.
La voix rocailleuse de Guy Lafitte pour nous parler sur un texte de Michel Laverdure, qui est écrivain et chroniqueur de jazz à Toulouse. Il nous parlait de notre fou chantant Charles Trenet. Charles Trenet aurait eu 100 ans le 18 mai, né à Narbonne en 1913. Il fut le premier chanteur en France à s'inspirer des rythmes et des harmonies de la musique américaine, le jazz. D'ailleurs, les musiciens de jazz lui ont bien rendu, car des morceaux comme « Que reste-t-il de nos amours »,« Wish You Love », interprété notamment par Nathalie Cole, ou La mer, Beyond the Sea, repris il y a peu de temps par George Benson, font partie des standards de jazz. Et Guy Lafitte, qui a interprété un ou deux morceaux de Charles Trenet durant ses concerts et même sur ses disques, la société Back and Blue, c'est-à-dire sa maison de production, a fait tout un CD avec une liste de morceaux de Charles Trenet. Et là, nous allons écouter « Il y avait des arbres ».
On a pris combien ? Thank you.
parlait des arbres, vous avez reconnu le thème, interprété par Guy Lafitte, qui était accompagné par Marc Hemmler au piano, Jacques Sewing à la basse et Philippe Combert à la batterie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Le pur Syrah du domaine de Monteils, ce vin, médaille d'or au mondial du rosé. Alors, je t'ai taquiné, Philippe, quand tu m'en as parlé, c'était sur le festival à l'Orchante. Quand tu m'as dit ça, j'étais fait la réponse que je fais très souvent, en fait, aux vignerons. J'ai dit, mais le rosé, vous êtes tous médaille d'or, de toute manière. Et j'ai vu que ça t'avait un petit peu, ça t'avait vexé, ça t'avait piqué dans ton estime, dans ton honneur un peu. Parce que, ben, vraiment, t'es très fier de ce truc-là. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que c'est que le mondial du rosé, à moins que Pascal puisse le faire, non?
Non, parce que sur leur site, enfin, je sais que c'est un certain nombre de concours. Il y a le mondial du rosé, le mondial du blanc, je sais pas quoi, mm-hmm. c'est du chardonnay, etc., mm-hmm. qui est fait par l'Union des œnologues de France, voilà. Mais je n'en sais pas plus parce qu'ils disent pas qu'ils sont,
C'est pas une secte.
En fin de compte, je fais partie d'une secte des œnologues de France. Non, bref. Ah. Les œnologues de France, c'est une association qui s'est regroupée d'œnologues diplômés d'État, comme des architectes, enfin comme des médecins, enfin bon. Et on va dire que c'est une garantie de qualité en tant que dégustateur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ils ont tous été formés d'une certaine façon. Certes, ça peut avoir des inconvénients, des avantages, mais en tout cas, on est sûr que ce sont pas des gens qui ne connaissent pas le vin qui dégustent. Voilà, ça c'est la première chose.
Ils sont combien ?
Oh ben, au niveau de l'association des œnologues de France, on doit être, je sais pas, 3-4 000.
Ouais. Ah non.
D'accord. Après, sur le concours, je crois qu'il y a 200 personnes qui dégustent, un truc comme ça, qui dégustent. Alors, sur le concours, donc l'Union des œnologues de France décide d'organiser ce concours, donc sur le mondial du rosé, sur le chardonnay, le meilleur chardonnay du monde, oh. Le meilleur sauvignon du monde. Tout ça pour dire que on prenait un peu à contre-temps, on va dire, tous les concours classiques où on déguste les vins par appellation. C'est-à-dire que dans le sud-ouest, vous avez une médaille d'or au concours agricole de Paris, par exemple, à Cahors. Bon, ben, ce sont que des vins qui sont dégustés en appellation Cahors. Et il y en a une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Mmh. Ça, c'est par appellation. Mmh. Là, au mondial du rosé, on part du principe que, qui veut présenter, présente. D'accord? Il y a une première présélection, et après, en fin de compte, il y a un jugement final, si on peut dire, qui est fait sans, on va dire, sans tabou. C'est-à-dire qu'on goûte les rosés les uns derrière les autres, et il n'y a pas à savoir si c'est...
C'est pas marqué dessus, il n'y a pas marqué dessus,
Syrah, bien entendu, les dégustations sont à l'aveugle. Bon, ça, c'est obligatoire dans les concours, et c'est certifié. Enfin, il y a un cahier des charges énorme sur les concours. La traçabilité, bien entendu, y est. Et on a, si vous voulez, une dégustation qui est sans appellation. Ça veut dire qu'on déguste le produit sans a priori, sans savoir si c'est de la Syrah, d'un aigrette, du Mourvèdre.
Enfin, si ça vient de France, d'Italie, d'Espagne,
exactement. Et là, on sort des lots. Voilà, on sort des lots et on attribue des médailles. Alors cette année, il y avait 900 échantillons présentés. Sur les 900 échantillons, ils ont attribué dans le monde, sur les 900 échantillons, je crois, une 80 médailles. Sur les 80 médailles, il y a plus de 60 médailles d'argent, puisqu'ils ne font qu'argent et or, et le reste en or. D'accord.
Donc je ne suis 40 pas... médailles d'or sur 900. Voilà. Sur 900.
Donc je ne suis pas, bien entendu, le seul, le meilleur rosé du monde. Ça serait prétentieux.
Il y en a
40 qui peuvent se prétendre de ça. Et alors le problème, c'est que bon, sur ces 40, bien entendu, il y en a 5 en France, je crois. Et il y en a le reste à travers le monde. Quoi.
Voilà, d'accord. Voilà. Donc il y a 5 médailles d'or.
Je ne suis pas le seul en France à me targuer cette médaille.
Voilà. Et alors, celui-ci, c'est le pur Syrah. Est-ce que tu avais présenté
d'autres vins?
Avec celui-là, c'est ta bête à concours.
C'est exactement ça. C'est ma bête à concours. Alors pourquoi ma bête à concours? Parce qu'il y a 3 ans, on avait fait un assemblée avec Catherine Tournaire, qui est une amie, qui était œnologue aussi à la Chambre d'agriculture, Catherine Tournaire. Et c'est Catherine
c'est pas la sœur d'Yvette Horner.
Non, Tournaire, pas Horner.
Chambre d'agriculture,
exactement.
C'est une émission respectable ici, on dit pas merde.
Voilà, qui est une amie que je connais depuis bien longtemps, et ensemble,
Vous étiez assemblé avec Catherine Horner.
On avait assemblé ces vins, et on avait trouvé que cette parcelle de Syrah sortait du lot. Et on s'est dit, pourquoi on fait pas à ce moment-là une cuvée différente? C'est né comme ça, quoi. Et donc, effectivement, on retombe vite sur la bête de concours parce qu'on se dit que c'est un vin un peu différent, qui a énormément de qualité, et par tendance, on le présente. Alors au début, encore une fois, c'était un peu de chance. On se dit c'est la chance, deuxième fois, C'est visiblement un process qui est sympa.
Est-ce que c'est pas aussi le cépage que vous présentez? Est-ce qu'il y a d'autres rosés qui présentent de la Syrah, ou est-ce que tout le monde est plutôt sur le rosé ce petit rosé que tout le monde aime bien?
On peut faire du rosé avec du merlot, on peut faire.
On fait du rosé avec du merlot. À Fronton, ils font des super rosés avec des maigrettes.
Le rosé au niveau national que tout le monde dit à chaque fois, c'est quoi? C'est le rosé
de Provence.
Voilà, le rosé de Provence.
Le rosé de Provence, c'est l'appellation. C'est une appellation.
C'est quel cépage?
Rosé de Provence, en général, c'est Mourvèdre, Syrah. Ils mettent un peu du nid blanc, c'est-à-dire qu'en général, je pense qu'il y a un peu du nid blanc, c'est-à-dire des cépages blancs, et pour justement arriver à avoir au maximum la couleur de ces rosés, puisque la mode, et là on est dans le marketing, la mode, c'est des rosés très, 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 très pâles.
Et donc justement, le tien est à contresens, à contre-courant.
Moi, je suis à contre-courant, de toute façon, on est à contre-courant.
Il a une robe qui passe à en rappeler le.
La robe du vrai rosé, mais il y a des rosés plus foncés.
Oui, voilà.
C'est un rosé viril. J'allais dire, il y a un côté orangé.
Un rosé viril.
Le problème, si vous me dites un côté orangé, ça m'énerve, parce que pour moi, un côté orangé, c'est un côté avec des notes d'oxydation et viril.
Oui, voilà.
Donc là, Rémi, dis n'importe quoi. Rémi, il faut que tu changes tes lumières de ton studio.
C'est la couleur plutôt saumon, même.
On va même sur des œils de perdrix. On a tout un vocabulaire qui part, on va dire, du rose intense jusqu'à l'orange. Quoi, d'accord, voilà. Non, là vous le mettez dehors à la lumière blanche, c'est-à-dire la vraie lumière, il est surtout pas saumonné, il est surtout pas orangé. C'est un rose pâle, relativement soutenu, et en aucun cas il est orangé. Voilà, ça c'est ce que j'en pense. Après, on le mettra dehors après l'émission,
bon,
vous verrez.
Alors, pardon, ton prénom m'échappe, excuse-moi. Ève, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette couleur-là? Mais bien dans le micro, s'il te plaît.
Moi, je préfère cette couleur-là, parce que les rosés très pâles, c'est les rosés apéro-piscine. Donc, voilà.
Ok. Non, mais là, je veux dire, c'est.
Ça, c'est une très belle couleur.
Alors, c'est quoi la couleur?
Moi, je vois un peu de tuiles, enfin, un peu de tuilée.
Tu vois, on est pareil.
Oui, je répète.
C'est pelure d'oignon.
Mais non.
Non, pelure d'oignon.
C'était pour blaguer, évidemment.
Ou pas, peut-être, et mets-le dehors.
Non, mais le jette pas le verre.
Non.
Madame, monsieur, vous êtes en train d'écouter, comme vous le faites de plus en plus régulièrement chaque vendredi, parce que ça devient complètement une drogue pour vous, l'émission Qu'est-ce qu'on déguste sur CFM Radio. Vous faites bien de faire ça, parce que vous êtes avec nous autour de cette table, vous êtes en train de déguster le pur Syrah de chez le domaine de Montaise, de chez notre ami Philippe Romain. Et on fait ça de façon très conviviale. On va se retrouver juste après les infos pour continuer cette dégustation et en savoir encore un petit peu plus, justement sur le goût, puisqu'on a parlé beaucoup là de la couleur. On va parler maintenant de la typicité, du goût, de ce que il y a dans la bouche dans un instant.
CFM.
Il est 18h. Soviferme, route de Farroux à Villefranche-de-Rouergue, pour la quincaillerie. N'hésitez pas, et aussi fer, acier, tôle, inox et découpe plasma.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous. Le nouveau laboratoire Biofusion est désormais opérationnel sur le site du Pont de Chaume. Il a rouvert ses portes après plus d'un an de travaux. Le laboratoire compte 9 sites dans les départements de Tarn-et-Garonne et 3 sites en Haute-Garonne. Il regroupe désormais l'ensemble de la technologie de ses 13 laboratoires en un seul et même plateau technique. 23 biologistes composent son équipe en plus de 150 collaborateurs, parmi lesquels techniciens de laboratoire, secrétaires et infirmières. Tandis qu'il était en difficulté financière, les 23 biologistes ont choisi de s'associer pour mutualiser leurs moyens et ont donc privilégié la biologie de proximité plutôt que la finance. Les bus de Montauban, bientôt pensionnaires de la zone Alba Sud, il en était question hier soir au conseil communautaire. Il s'agissait en effet du prochain transfert de l'activité économique de la SEMTM de la zone Alba Nord à la ZAC Alba Sud. Depuis novembre 2012, la SEM exploite le réseau de bus de la ville. Un nouvel atelier de dépôt de bus devrait être construit et pour cela, la SEM a sollicité auprès du Grand Montauban un prêt de 2 100 000 euros à hauteur de 50% pour financer le projet qui a été voté. Le bâtiment devrait être implanté sur 1330 m² de la zone Alba Sud. La nouvelle 2x2 voies entre la Croix-de-Mille et Tanus dans le Tarn est quasiment achevée. Les 7,3 km de la RN 88 doublée seront mises en service fin septembre, début octobre. La région a engagé 70 millions d'euros sur cette taxe au cours des dernières années. La nouvelle section doublée a coûté 49,5 millions d'euros financés par l'État, la région et le département du Tarn. Du soleil dimanche selon Météo France et une fête du nautisme potentiellement réussie. Organisée partout en France au mois de mai, la fête du nautisme est devenue le rendez-vous nautique incontournable, donnant le coup d'envoi de la saison estivale. 500 sites se mobilisent pour l'occasion, parmi lesquels la base Actiovive de Saint-Antonin-Nobleval dans les gorges de l'Aveyron. Au programme ce samedi, des 100 ans canoë, initiations diverses et les réservations au 05 63 31 88 61. Et puis ce rendez-vous à ne pas manquer, l'USM rencontre Bourgoin en demi-finale de Fédéral 1 ce samedi 25 mai. Excellente fin de journée en CFM.
CFM à Moissac, 90.7.
Environnement Multiservices, votre entreprise de travaux d'entretien d'espaces verts, tonte, taille de haies, d'arbres, d'arbustes, plantations, nettoyage de locaux, bureaux, immeubles, petits déménagements, collecte des déchets verts, gravats, archives, fer, bois, pour professionnels, particuliers et collectivités. Environnement Multiservices, tous travaux ponctuels ou à l'année, avec professionnels et particuliers, 416 avenue Jean Moulin à Montauban, 05 63 20 07 44, 05 63 20 07 44, études et devis gratuits.
Vous dormez comment ? Sur le dos ? Sur le côté ? Mal ? Eh bien moi je dors comme un bébé, depuis que je passe mes nuits avec mon nouveau matelas de chez Litry Marché. Alors plus une seconde d'hésitation, rendez-vous chez Litry Marché, sommier, matelas, clic-clac, oreiller, couette, c'est plus que du confort, c'est du plaisir. Litry Marché, des prix fous toute l'année. Litry Marché, c'est également la vente aux spécialistes de gîtes, hôtels et collectivités.
Litry Marché, trois adresses en Aveyron, Villefranche-de-Rouergue, Rodez et Saint-Afrique.
Tous les goûts sont dans la nature. Et maintenant, ce qu'il vous faut est chez Grisol Nature. De l'alimentation bio, des produits bien-être, des vitamines ou encore des soins naturels et des cosmétiques bio. Trouvez votre bonheur chez Grisol Nature. En plus, les prix sont tout petits. Grisol Nature, c'est un concept novateur qui rend accessible à tous les produits naturels de qualité. Pour votre première visite, Grisol Nature vous réserve un cadeau surprise. Alors n'hésitez plus. Découvrez la grandeur du petit commerce face à la halle de Grisol. Grisol Nature, un concept qui assure.
32 morts et près de 300 blessés en 2012. Ça vous parle ? Ce sont les chiffres de la sécurité routière en Tarn-et-Garonne. Les comportements à risque des conducteurs tarn-et-garonnais sont cause de tous ces drames. La vitesse, l'alcool, la drogue, le téléphone portable ou l'absence de ceinture de sécurité sont les facteurs aggravants. Pour vous, l'enjeu 2013 est simple. Essayez de ne pas mourir. Si on continue comme ça, ça ne va pas être facile. Sécurité routière. Tous responsables.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt ? Vinovali, les vignerons d'Ovali.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Pur Syrah du domaine de Monteils, c'est les deux bouteilles, non, la bouteille et demie qui reste sur la table à déguster d'ici la fin de cette émission avec Pascal Olivier, toujours en forme.
Oui, oui, présent.
Georges Bonfils, qu'on n'avait pas présenté en début d'émission parce qu'il était parti, peut-être petit problème d'incontinence, Georges.
Non, pas du tout, j'avais laissé mon CD dans le manche disque.
Ah, oh, pas mal. Salut Christophe.
Rebonsoir, on va parler de Daft Punk, on va parler aussi de Winston McCartney. K9, ce grand rasta qui vient de sortir un disque, c'est Fixie, l'accordéoniste du groupe Java.
On a une nouvelle chroniqueuse ce soir, c'est Eve. Salut Eve.
Bonsoir tout le monde. Moi je vais vous présenter ma petite recette de soupe pour les pauvres de fanes de radis.
Ça c'est terrible. Et puis notre invité, eh bien c'est Philippe Romain pour le médaille d'or au mondial du rosé, le pur Syrah. Qu'on est en train de déguster. Tu vas nous en parler de façon œnologique dans un instant.
Si tu veux.
Mais d'abord, à ma droite, peut-être, pourrions-nous commencer par,
oui,
parler de vin et de...
Vin et pesticides, la loi du silence, une belle chronique de Jean-Paul Genet dans Le Monde qui m'a fortement interpellé. J'en avais déjà entendu parler, mais là, ça, C'est assez chaud. La France est le premier utilisateur européen de pesticides, 62 700 tonnes en 2011, et la viticulture, qui occupe 3,7% de la surface agricole utile, dite aussi SAU, consomme 20% des pesticides.
Et là, un peu plus, parce qu'avec la pluie qui est tombée, tu nous diras s'il faut, il faut pas...
Il y a du mildiou qui se pointe. On voit qu'il fait froid, donc pas encore trop, mais bon.
À mon avis, il va falloir...
Donc bref, dans les dégustations œnologiques, est-ce qu'il faudrait déceler des notes de cypronidyl, d'hyprodione, d'azoxytrobine, de prosimidone ou de pyrimethanil? Eh ben, il va falloir que ça y arrive, parce que un laboratoire à Bordeaux qui s'appelle le laboratoire Excel, qui est par ailleurs propriétaire de plusieurs domaines familiaux à Pomerol et à Saint-Émilion, donc ce laboratoire Excel a analysé récemment 320 d'Aquitaine et de la vallée du Rhône 2007 et 2008 dans lequel le labo a recherché 50 matières actives. Seulement 10% des échantillons, principalement bio, ne contenaient aucun pesticide. Les 90% restants n'hébergeaient au moins un, souvent un fongicide, et jusqu'à 9 différents dans un seul vin. Tous les taux qu'on a trouvés sont bien entendu en dessous des LMR, qui sont les fameuses limites maximales de résidus. C'est-à-dire que pour les produits de première nécessité, tels que le beurre, le riz, le blé, etc., l'Union européenne a défini donc des limites maximales de résidus pour lesquels, pour ces produits-là, si ça passe au-dessus, eh ben ils sont retirés de la commercialisation parce qu'ils présentent des risques forts, des risques importants pour la santé. Et donc, seul problème, il n'existe pas de limite maximale de résidus pour le vin. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, on peut mettre dedans.
Tu peux mettre de l'arpic.
Oui, ou du pétrole.
Il a une belle robe,
ça. Il faut pas dire, mais ça va m'énerver, là.
Bon,
ça pique. Mais jusqu'à maintenant, j'étais calme, on parle de mon vin, ça va. On parle de la profession, on parle de mon métier, ça va me mettre en colère.
C'est bien pour.
Tu fais exprès, en plus, il n'y a pas de problème.
Alors, si les études sur la présence de pesticides dans les fruits et légumes, le lait ou l'eau sont courantes, elles sont rares et confidentielles pour le vin. Il y a eu une étude en 2008, que choisir en 2011, 60 millions de consommateurs en 2012. Tout aboutissent pourtant au même résultat et révèle des traces de pesticides dans la plupart des vins, sauf les bio, même si certains sont parfois contaminés par le voisinage.
Ben voyons.
Bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le rosé du domaine de Montails, autre que du vin?
Alors, il n'y a pas que des pesticides, il y a aussi des fongicides, des produits qui luttent contre le mildiou, contre l'odium, contre pas mal de maladies, qui sont souvent à base de cuivre, essentiellement même des fois à base de cuivre.
Donc ça, c'est, on va dire, naturel.
Ça, c'est naturel, sauf que, à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries à tout le monde.
Ouais.
Et que le cuivre, ben, à un moment donné, à des doses importantes, c'est toxique. À un moment donné, quand vous en mettez pendant 20 ans dans les sols, ben, les sols, ils sont saturés en cuivre. Ah. Ce que font les bio, ce que font les pas bio d'ailleurs. Donc à un moment donné, le problème, c'est est-ce que vous voulez une récolte ou pas?
Salaud de bio.
Non, surtout pas salaud de bio. Surtout pas. Non. Si j'ai une chose à dire sur les bio, c'est que ce sont bien des gens qui sont là pour mettre en alerte, on va dire, les excès. Donc là, on parle des pesticides. Demain, tu vas me parler des sulfites, qui du soufre, d'accord, hein. Donc on confond pas.
Ah non, je ne parle que des pesticides.
Attends. On confond pas pesticides et fongicides, d'accord, hein, et sulfites. Encore autre chose. Les pesticides, effectivement, on lutte contre les acariens. On est en lutte raisonnée au domaine de Montels. On fait de la lutte, de la confusion sexuelle, c'est-à-dire qu'on est capable d'empêcher les acariens, d'empêcher les cicadelles, donc des insectes qui sont vivants dans le milieu, dans le biotope naturel, si vous voulez. On est capable de les empêcher par des confusions sexuelles. On met des hormones dans les vignes
et se reproduire, et donc de
contaminer, on va dire, et d'attaquer le vignoble. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ce sont. Attends, laisse-moi parler. Ouais, ce sont des insectes qui sont à un moment donné dans la production du raisin nuisibles.
La distribution de capote à tous les acariens.
C'est le même principe. Toujours est-il qu'on n'utilise pas à ce moment-là de molécules de synthèse toxiques. Ce qu'il faut dire aussi, parce qu'il faut le dire quand même, c'est que comme tu dis très bien, elles sont minimes. Et ce qu'il faut bien comprendre les gens, c'est important, hein, c'est qu'à un moment donné, quand on utilise un pesticide, qu'est-ce qui se passe? On achète un produit, on dépense de l'argent. Or, moins je dépense de l'argent pour faire un vin naturel, on va dire, mieux c'est. Donc, à la limite, quand vous entendez des gens qui vous disent que les agriculteurs, c'est des fous de consommation de produits phyto, c'est faux. moins on utilise, mieux on se porte économiquement.
Mais 62 700 tonnes en 2011.
Oui, mais ça veut dire quoi par rapport à quelle production, ainsi de suite. Moi, je voudrais avoir des pourcentages différents, si tu veux. Là, tu donnes un chiffre qui veut rien dire. Donne-moi la même consommation pour les céréales, par exemple.
Est-ce que quand il pleut, comme c'est le cas en ce moment, les vignes, comme les arbres fruitiers, etc., sont plus en danger qu'habituellement, et donc est-ce qu'il faut en mettre un peu plus?
Alors, dans des périodes de pression comme ça, on appelle ça des périodes de pression de maladie. Là où on a de la pression, c'est sur le mildiou, actuellement. Mmh. Le mildiou, c'est un champignon naturel, d'accord? Donc ça veut dire qu'on rattrape, on va dire, on réduit un peu les cadences de traitement. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on traitait tous les 15 jours à peu près. Là, sur des pressions comme ça, avec de l'humidité énorme depuis qu'on n'a jamais vu, des températures qui sont pas si basses que ça, on a, si vous voulez, un milieu ambiant hyper humide avec des taux de 85%, 75% d'humidité. Ouais. Donc on a tous les contextes pour avoir du champignon. Et donc on réduit, on va dire, le temps de traitement. Donc on traite avec des cadences un peu moins soutenues, c'est-à-dire autour de 10 jours. Donc on passe de 12, 13 à 10 jours. Donc effectivement, on utilisera plus de produits. Rien à voir avec les pesticides, parce que le mildiou ne s'utilise pas avec un pesticide, d'accord? Ça n'a rien à voir. Mildiou, c'est des produits fongiques, c'est du cuivre.
C'est un champignon.
Donc un produit naturel aussi.
Je comprends rien. Je comprenais pas alors.
Est-ce que c'est pour ça que tu te balades avec une perruque blonde au milieu des vignes pour la confusion sexuelle?
Non, tu me verras jamais avec une perruque blonde dans les milieux des vignes. Alors j'ai plus trop de vin. Ça va arriver.
Fusion.
Oh, comment ça se pratique?
Fusion.
On te voit plus en soirée.
C'est très joli comme terme, la confusion sexuelle.
Oui.
Allez, attention. On parle d'un disque qui fait l'actu depuis le début de l'année et qui est enfin sorti lundi dernier. Le quatrième album des Daft Punk qui s'intitule Random Access Memory, RAM, comme le terme informatique. Et après avoir lu des critiques excellentes dans la presse depuis 15 jours, il me tardait d'écouter cet album. Mais bon, quelle ne fut pas ma déception quand j'ai mis cet album dans ma platine CD. C'est bien fait, il n'y a pas de doute. Mais bon, en 7 ans, ils ont quand même eu le temps de peaufiner le son, il n'y a pas de problème. Ils sont bien entourés. Il y a le guitariste de Chic, Niles Roger, qui donne la touche funky à l'album. Sinon, c'est du Daft Punk. Il y a le vocodeur, cette voix robotisée qu'on retrouve à outrance sur le disque. Il y a des morceaux planants, des morceaux plus dansants. En tout cas, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Mais bon, les Daft sont les rois du marketing, donc toute la presse, bien entendu, en a parlé. Tout le monde marche. D'ailleurs, même moi, je suis en train de vous en parler. Comme quoi, hein. J'aime pas le disque, je suis en train finalement de leur faire de la pub. Je pense que les deux Français avancent masqués pour mieux commettre leur larcin. Effectivement, sur le premier album, ils ont pillé la techno. Sur le second, c'était la house. Sur le troisième, l'électroclash. Et les voici en train de faire de même avec le son disco-funk, ce son des années 80 qu'on entendait en discothèque. Pour se faire une idée, on écoute un extrait, c'est le premier morceau qu'on retrouve sur l'album Random Access Memory des Daft Punk.
Les saucissons sont pas terribles, mais ça éponge. Voilà.
Thank you.
7 ans pour faire ça, quand même, ils sont pas fous. C'est le vocodeur.
Du vocodeur là,
Complètement, mais surtout l'album, de toute façon, comme à chaque fois, c'est répétitif, c'est pas intéressant, mais bon, ils vont en vendre plein, donc c'est, voilà, c'est marketing.
C'est marketé pour la planète.
Et ça va marcher.
C'est marketé pour la planète.
Daft Punk.
C'est qu'est-ce qu'on déguste et de temps en temps, qu'est-ce qu'on déguste, on a le plaisir d'avoir de la visite. Donc on a du public ce soir. Applaudissez, public en fiévré. En fait, il y a David qui est un auditeur qui est venu nous rencontrer cet après-midi et qui est là dans le public, qui déguste le pur Syrah. Ça va, tu le trouves bien? Ouais, ça va. Et il avait une question, David, c'est même pas une question, parce qu'il est arrivé, très fin connaisseur, il a dit, mais c'est une vendange de nuit. Alors là, ça m'a abasourdi.
De toute façon, aujourd'hui, tu vas être abasourdi, hein.
Mais ouais,
c'est une vendange de nuit.
Intrinsèquement, tu vendanges la nuit.
Ouais. Pourquoi?
Ben oui.
Pour éviter l'oxydation. Et pourquoi? Parce qu'en ramassant la nuit, puisque maintenant on ramasse avec des machines à vendanger, alors ça enlève un peu le côté folklorique, hein, mais on ramasse avec des machines à vendanger.
Merci pour tous ceux qui ramassent à la main.
Non.
Folklore, le mec.
Bah oui.
Non, il y en a qui ramassent à la main.
La fête des vins à Montaigne, il fait un demi-hectare.
Exactement. Pour la fête des vendanges, chaque année, on fait un demi-hectare exactement à la main. Et pour le folklore, pour que les enfants sachent que le raisin, c'est sucré, pour qu'on sache que ramasser du raisin à la main, on a mal au dos, et que les seaux sont lourds, et que
ça tache les doigts. Et qu'on peut manger des raisins.
Exactement. Qu'on peut se gaver ce jour-là, parce que ça fait partie de la fête des vendanges. Et qu'on adore ça.
Dans les vins des Coteaux et Terrasses de Montauban, il y a, comment il s'appelle, le Mas des Anges, ils font leur vendange.
Juan, il a 4 hectares. Hein, il ramasse en pente, il ramasse à la main parce que c'est sa façon de travailler aussi. Il a toute une équipe d'amis qui ramassent ça.
Il y a plein de Belges qui
ramassent. Alors revenons aux moutons, pourquoi la nuit?
Bon, alors pourquoi la nuit? Ben, tout simplement parce qu'en ramassant la nuit, on ramasse le raisin froid.
Il fait plus frais
la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ramassant plus frais la nuit, comme quand, enfin un truc basique, vous croquez une pomme en plein été, vous la laissez dehors, au bout de 2 minutes elle est marron. Vous croquez une pomme en plein été, vous la mettez au frigo, elle s'oxyde 2 fois moins, il va falloir 1 heure pour qu'elle soit marron au niveau de l'oxydation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ramassez un raisin à des températures chaudes, le raisin s'oxyde 10 fois plus vite qu'à des températures froides. S'il s'oxyde, il perd des arômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vinification, on retrouve pas les mêmes arômes dans le vin. Tout simplement. Ça veut dire qu'on ramasse la nuit pour préserver au maximum les arômes. Et ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que si on ramasse la nuit pour préserver les arômes, on ramasse froid et donc on a eu besoin d'utiliser moins de sulfite. Moins de soufre.
De soufre
qui va faire servir à quoi? Parce que le soufre sert à quoi?
Le soufre est un antioxydant.
Bravo. Un antioxydant. Et donc, plus on ramasse froid, moins on utilise cet antioxydant naturel, mais on utilise moins. Donc ça veut dire qu'à la fin, au final, on aura un taux de soufre moins important dans le vin, et donc des vins plus aromatiques, plus agréables, et avec ce côté âcre du soufre qui est interdit maintenant.
Quand on dit un vin oxydé, est-ce qu'on dit que c'est du vinaigre?
Non, ça n'a rien à voir. Le vin oxydé, c'est un vin qui a été en contact avec l'air, avec l'oxygène. Le vin du vinaigre, c'est du vin qui a été attaqué par des bactéries acétiques qui transforment l'alcool en acide acétique.
C'est la vie naturelle du vin. Exactement. Il y a du jus de raisin, du vin et du vinaigre.
Exactement.
Fermentation alcoolique, fermentation acétique.
Mais exactement. Alors, voilà. Oui, le problème avec l'oxydation, c'est juste une question de goût.
Le contact avec l'air, oui.
L'oxydation joue sur le potentiel aromatique des vins.
C'est ça. C'est juste une question de goût. Après, ça garde son efficacité alcoolique.
Non, mais si tu veux, le problème, c'est que le rosé, l'oxydation n'a rien à voir. N'a rien à voir avec le taux de sucre résiduel du raisin, entre 170 grammes et 250 grammes, qui lui va se transformer en alcool et qui va devenir de l'alcool, ça n'a rien à voir. L'inconvénient de l'oxydation, c'est que d'abord tu vas perdre des arômes et après tu auras une couleur, cette fameuse couleur que tu dis pelure d'oignon qui m'énerve, alors que c'est pas du tout ça. Voilà.
Il est jamais triste. Mais...
Tu sais ce qu'il a lui dans son iPod en permanence?
Non.
Les Shérifs. Il vendange à machine en écoutant les Shérifs.
Avec mon frère, maintenant en vieillissant, on a des pressoirs pneumatiques. Quand on était plus jeune, on avait des pressoirs horizontaux, des pressoirs à vis, des pressoirs Vasselin. Et alors que maintenant, on travaille avec des élévateurs où on met le raisin dans des godets pour plus avoir de pompe, on véhicule le raisin sans aucun contact avec une pompe. Avant, on faisait tout à bras d'homme, mon frère et moi, et on décuvait, à l'époque, on avait 20 hectares de vignes, à bras d'homme, ensemble, avec de la musique rock. Exactement.
Avec
et on se tapait des suées pendant les trains. Exactement. C'est exactement ça. C'était exactement
voilà,
ça.
Voilà. Famille Romain, frère.
Je voudrais simplement juste ajouter quelque chose, c'est un vrai travail de Romain.
Oh, bravo, joli. Bravo.
Je n'aurais pas osé la faire.
Je me sentais très fort.
Guy Lafitte, le plus jazzman des saxophonistes de la première génération et le plus sudiste, puisqu'il est né à Saint-Gaudens. En 1927, il a débuté sa carrière comme clarinettiste de l'orchestre du pianiste montalbanais Jimmy Rena.
Puis passa au saxophone. Un peu parce que j'étais persuadé que tu allais faire une chronique sur Jim, sur
dans la troisième partie.
Sur Jim Morrison.
Ah, je fais toujours deux morceaux de disque et puis après dans la troisième partie.
Non, vous êtes viré.
Non.
Parce que comme j'avais fait la première partie sur Charles Trenet et que c'est Guy Lafitte qui fait un hommage à Charles Trenet. Je présente Guy Lafitte.
Tes 3 minutes sont terminées, passons au chant.
Non, allez, allons-y.
Il avait une voix rocailleuse, vous l'avez entendu tout à l'heure, proche du saxo avec lequel il racontait une histoire et comme dans la vie courante, c'était quand même avant tout un conteur. Il a parcouru toutes les scènes de France et Navarre, participé à tous les festivals et même parti quelques mois à New York. En 1971, il laisse tomber la musique pour s'occuper de la période où c'était le free jazz. Ce jazz-là ne l'intéressait pas trop, donc il a laissé tomber pour aller s'occuper de moutons dans le Saint-Gaudinois, puis il reviendra au jazz en 1977 avec une mini tournée avec le trompettiste de la Nouvelle-Orléans Wallace Davenport, où il retrouvera à nouveau le pianiste montalbanais Jimmy Rena avec sa femme Manon. Bon, il a été président d'honneur du festival de Jack de Marciac, avec Bill Coleman.
Le festival de Jack, c'est un festival de whisky.
Il s'occupa aussi du festival de jazz Ramatuel. Il devait, avec Pierre Boussaguet et Jack Terrasson, faire le festival de jazz de Montauban de juillet 98, mais il décéda le 10 juin de cette année-là. Bon, à l'âge de 67 ans, c'est pas très âgé. Il aurait pu attendre quelques jours. Là, nous l'entendons dans un morceau Charles de Trenet qui a sûrement été le plus joué en jazz sous le nom de Cœur restitué de nos amours. Et un américain, Wish You Love.
Thank you.
tu danses, chérie. Serre-moi fort contre toi. Oui. On se voit. Ce qui joue bien, c'est Guy Lafitte. Chérie.
Tu devais emballer dans les cinq mois avec
oh là, ça. Avec ça, et quand t'imagines, Georges à la contrebasse et les meufs qui se disent ah quel doigté il a.
Ouais.
C'est...
Sa chambre calme.
Sa chambre dure.
Il y a pas que moi qui peux chambrer.
Tu fais ça à Lourdes, tu te fais appeler Bernadette. Hein.
Un thème que reste-t-il de nos amours que. Guy Lafitte aimait particulièrement jouer le soir de ses concerts. Là, il était enregistré en 1982 en compagnie de Mill Buckner à l'orgue et Sam Woodyard, le batteur de Duke Ellington à la batterie.
Ça y est, c'est maintenant qu'on le met à la bouche, ce vin, puisqu'il avant qu'il n'y en ait plus quand même, hein, avant qu'on arrive complètement au bout des trois bouteilles. On met donc quelques gouttes au fond de notre verre de ce pur Syrah du domaine de Monteils de chez Philippe Romain. Il a été médaillé d'or au Mondial du Rosé et il a été médaillé d'or bien sûr pour sa couleur, pour sa robe dont on a déjà parlé, qui n'est pas du tout comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec ce petit côté cuivré comme a pu le dire Eve aussi, mais qui est plutôt à la lumière du jour. Émeraude, non pas du tout.
Rose léger soutenu. Voilà.
On en a déjà parlé. Maintenant, je voudrais qu'on parle du goût, s'il te plaît, Philippe. Fais-nous donc.
Déjà le nez.
On a fait un examen visuel. On s'est fait un peu chambrer. On a parlé de ça. On a fait un examen olfactif. On a parlé pas tant que ça, non. En sachant que dans l'examen olfactif, c'est-à-dire le nez, hein, on a l'intensité, surtout la longueur, c'est-à-dire à un moment donné, si on va le sentir longtemps. Les arômes du vin, d'accord. Si on sent rien dans le verre, ça sert à pas grand chose. Hein. Et puis après la qualité, donc l'intensité, la puissance des arômes et la qualité des arômes. Voilà. Donc la puissance des arômes, on l'a puisque plus ça va, plus les vins s'ouvrent et plus c'est aromatique. Hein. Et après la qualité des arômes, eh ben elles sont comme on disait tout à l'heure, hein, un peu agrumes, un peu fruits rouges. Ça peut être un peu des petites framboises, des fraises, un peu de cassis. Hein, ça reste un vin
c'est très
complexe.
C'est-à-dire que même bon, on peut aimer ou pas aimer, mais par contre c'est très lisible. C'est-à-dire que tous les arômes sont très présents. Très prégnant.
Exactement. Voilà. Et c'est moi ce que j'aimais, c'est quand tu disais tout à l'heure le côté agrume, parce qu'en fin de compte, c'est un vin qui évolue, quoi. C'est-à-dire que dans le premier nez, c'est l'agrume, et puis après, ça évolue sur les fruits rouges. Ça, on va dire, c'est l'examen olfactif.
Elle est pas contente.
L'intensité,
tu le trouves pas,
elle est relativement importante.
Attends,
visiblement, puisque.
Regoute. Attends, il faut que Eve.
Vas-y, fais goûter.
Il faut qu'elle, Eve, elle trouve le côté agrume, vas-y.
Moi, je trouve que c'est beaucoup plus agrume que fruits rouges.
D'accord. Alors après, il faut savoir qu'on a tous. Une perception différente.
Des prédispositions.
Attends, prends et après. Une prédisposition, tu vas voir.
Une sensation olfactive différente, quoi. Donc, c'est ce qui fait aussi le charme du vin. Parce que si on avait tous le même nez, la même bouche, le même pH d'acidité, et là, je parle un peu technique, là. On n'aurait pas du tout les mêmes sens.
Mais ça serait pas drôle.
On
n'en parlerait pas.
Exactement.
Alors que nous, on fait une émission tous les vendredis pour parler que de ça depuis 5 ans.
Exactement.
Déjà. Tu te rends compte, le truc?
Alors, pour en revenir maintenant au goût.
Où ça?
Le top. C'est-à-dire le summum serait d'arriver à retrouver en bouche le côté aromatique qu'on a eu en nez, c'est-à-dire du fruit intense, d'accord. Et après, on décide, le vigneron décide, c'est-à-dire tout le domaine, mon équipe, moi, mon frère, enfin tout le domaine, décide de savoir ce qu'on veut faire de ce rosé en bouche. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un vin très vif, très nerveux, ou est-ce qu'on veut un vin rond, gras, long en bouche, avec une intensité aromatique importante. Donc, et ben c'est ce qu'on a là. Ouais. Ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'acide. Vous savez, on est capable de calculer le taux de gaz carbonique dû à la fermentation qu'on peut enlever.
Ah, c'est ça qui est terrible. C'est qu'à un moment, en fait, nous on imagine vigneron, poésie, tu vois le truc,
c'est
machin.
Chimie,
et en fait, c'est
chimie. C'est de l'homme. C'est de l'homme qui travaille.
C'est du la chimie.
Du ménage.
Chimie. Un laboratoire. Tu mélanges tes émouvettes comme ça.
Non. C'est de l'art. C'est de l'art de l'assemblage.
Le pur Syrah.
Et c'est un travail.
Est né.
C'est un travail.
Mais c'est de la chimie aussi. T'es que de la chimie, hein.
Oh, dis donc,
c'est de la chimie.
Oui.
Tu n'es qu'un bout de chimie.
Exactement.
Un bout de chimie.
Allez, non.
Allez,
tu le fais avec des goûts personnels ou.
Attends. Hé, j'ai les infos à envoyer, ça fait une minute trente.
Ah oui, c'est vrai, les infos.
On prend après. Il parle.
Mais oui, il parle.
T'as pas des ascendances pieds noirs un peu, toi, de parler comme ça, là?
Un petit peu.
Un petit peu, dis-moi.
CFM, les infos.
Bonsoir, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'inquiétude des autorités à deux jours de la nouvelle manifestation contre le mariage pour tous. Christine Lagarde à nouveau entendue aujourd'hui. L'intervention de la France au Niger au lendemain des attentats suicides. Enfin en sport, première demi-finale du top 14 ce soir entre Toulon et Toulouse. Inquiétude à 48 heures de la manif pour tous. Les autorités craignent des débordements face à la radicalisation d'une partie du mouvement. Manuel Valls a par ailleurs tapé du poing sur la table ce matin. Le ministre de l'Intérieur a prévenu qu'il songeait à interdire le printemps français. Une nébuleuse des opposants les plus radicaux au mariage homosexuel qui a appelé à des opérations coup de poing. La porte-parole du mouvement Manif pour tous, Frigide Barjot elle-même, a fait part de ses inquiétudes dans une conférence de presse cet après-midi. Écoutez.
Je dis qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je ne pense pas me rendre à la manifestation, car les menaces qui pèsent sur moi, ma personne, de Frigide Barjot personnellement, sont encore extrêmement présentes. Eh ben, des menaces que j'ai reçues hier, un mouchoir gorgé de sang, hein, c'est toujours sympa, voilà. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Je reçois des SMS, tu ne parleras pas d'union civile, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça.
J'ajoute que le Parti Socialiste a estimé que l'UMP prenait une grave responsabilité en maintenant son soutien à la manif pour tous. Christine Lagarde, toujours auditionnée à la Cour de justice de la République, la patronne du FMI déjà entendue hier, s'explique à nouveau devant les juges depuis 8 heures ce matin. Une audition sur le rôle de l'ex-ministre de l'économie dans le règlement du litige avec Bernard Tapie après la vente d'Adidas. Ce matin, l'homme d'affaires a estimé dans une interview au Parisien que l'hypothèse d'un remboursement était irréaliste et que la décision arbitrale ne pourrait pas être remise en cause. La décision de Pierre Moscovici sur les salaires vivement critiquée. Le ministre de l'économie qui explique dans un entretien aux Échos renoncer à un projet de loi pour encadrer les salaires des patrons dans le privé, lui préférant une autorégulation exigeante. Pour Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du Front de gauche, Pierre Moscovici a lâché la bride au patron. Une décision critiquée jusque dans les rangs socialistes. Jean-Christophe Cambadélis, député de la majorité, a ainsi expliqué que son camp aurait aimé que le gouvernement légifère sur ce sujet. Une personnalité psychopathique, mais un homme tout à fait responsable de ses actes. Voilà le résumé du témoignage des experts psychiatres convoqués aujourd'hui aux assises de Nantes au troisième jour du procès de Tony Meillon. Tony Meillon, jugé depuis mercredi pour enlèvement, séquestration, suivi de mort en état de récidive légale pour le meurtre de Laetitia Perret en 2011. Deux terroristes tués au Niger, bilan de l'assaut mené ce matin par les forces spéciales françaises en appui des forces nigériennes. L'opération intervient au lendemain des premiers attentats suicides de l'histoire du pays. Des attaques qui ont tué une vingtaine de personnes. Elles ont été revendiquées par le Mujao, mais aussi par le groupe Les Signataires par le Sang, menaçant la France et tous les autres pays engagés militairement au Mali. Les Signataires par le Sang qui ont affirmé dans un communiqué que les attaques ont été supervisées par leur chef, Mokhtar Belmokhtar en personne. L'homme avait pourtant été annoncé mort en mars. Deux passagers d'un avion arrêtés à Londres. Selon des sources policières, l'incident à caractère terroriste serait écarté. La police avait indiqué cet après-midi qu'un avion de ligne d'une compagnie pakistanaise avait été dérouté sur l'aéroport de Londres et escorté par un avion de chasse de la Royal Air Force. L'avion transportait quelques 300 passagers. Enfin, en sport, du rugby et la première demi-finale du top 14 ce soir à Nantes. Le double tenant du titre, le Stade Toulousain, défie le récent champion d'Europe, le RC Toulon. Un remake de la finale de l'an passé. Un choc surtout entre Toulouse, figure du rugby français, 19 fois champion de France, et Toulon, la nouvelle équipe star. Deux clubs aux valeurs bien différentes pour Jean-Marc Arnaud, supporter toulousain, président du fan club Le 8.
On ne va pas dire qu'il y a une rivalité, mais c'est vrai que ce que le président de Toulon a mené dans le monde du rugby ne nous plaît pas réellement. Quasiment tous les clubs du top 14 aujourd'hui à parler du même langage que nous. On n'apprécie pas trop cet apport d'argent comme il a fait, avec cet apport d'étrangers, et puis en plus une mentalité un peu spéciale. Donc c'est vrai qu'il y a deux visions différentes du rugby. Bon, après, on a été critique sur Max Guazzini quand il est arrivé avec le Stade Français, qu'il a voulu faire du spectacle. Il a amené une pierre à l'édifice quand même au niveau du rugby professionnel. Et on est un petit peu dans le même cas de figure aujourd'hui avec le président de Toulon. Maintenant, bon, moi, ça ne me dérange pas de voir Toulon champion d'Europe avec que des étrangers sur la pelouse. Par contre, le champion de France avec que des étrangers sur la pelouse, malheureusement, c'est ma jeune année, quoi.
À noter ce soir que côté toulousain, Frédéric Michalak, ancien du Stade toulousain, débutera la rencontre dans le 15 du RCT.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite?
Serre-toi.
Excuse-moi, parce que je... Hop, il faut que je fasse l'intendance. Bon. Dernière partie de cette émission Qu'est-ce qu'on déguste, consacrée au rosé médaille d'or du domaine de Monteils, 6,99€ chez...
95.
Ah, pardon.
Au domaine.
6,95€ au domaine.
Au domaine.
Les fournisseurs, alors non, ça c'est des choses qu'on va voir après, si tu veux, on parlera quand même un petit peu de la distribution du domaine de Monteils, où est-ce qu'on le trouve. Je sais qu'on le trouve dans de nombreux stables, vous êtes un peu omniprésent dans les restaurants de la région.
C'est vrai.
Non,
aussi alors au Salon des Vins de Montauban.
Bien sûr.
On en parlera aussi.
On en parlera du Salon des Vins de Montauban.
Bien sûr.
On parlera de la Movida,
très bien.
Mais également, pour commencer, bien sûr, on écoutera les Doors, et puis on parlera aussi
de Winston McAneuf.
Mais on commence par le plat du pauvre, ce n'est pas l'artichaut.
On peut vraiment faire des soupes à des fans.
Ah ouais, mais les fans de radis, c'est très bon, ça peut très bien remplacer les bread muffins dans le Roumazav, par exemple, tu vois. Ben si, c'est vrai.
Dictionnaire de l'Académie.
Tu veux faire un Roumazav, c'est malgache. Normalement, tu fais ça avec des bread muffins. Si t'as pas de bread muffins, tu sais, c'est un truc avec des petites fleurs jaunes qui t'endorment les lèvres, là,
ça pique la bouche.
Et ben, si t'as pas ça, tu fais ça avec des fans de radis, ça marche bien aussi.
D'accord, je ne savais pas.
On fait quoi avec les fans de radis?
Alors, avec les fans de radis, d'abord, vous allez chercher vos radis. Hein, vous allez dans votre petit jardin ou vous allez sur votre petit marché. Bien évidemment, ce sont des radis bio, tout propre, avec des fans toutes neuves, toutes fraîches. Sinon, c'est même pas la peine, vous jetez à la poubelle.
Saison 48 heures.
Non, c'est tout frais, ça vient d'être cueilli, c'est ferme, c'est
ça
vif,
vit encore.
Et ça vit encore. Vous jetez les radis, bien évidemment, et vous...
Mais enfin, avec un petit peu de beurre et du sel, avec Roxel.
Ouais, je plaisante. Donc, vous lavez, vous équeutez vos radis, vous mettez les radis d'un côté, vos fans de l'autre, bien lavés. Dans une cocotte, une petite échalote ou un oignon, avec un petit peu d'huile d'olive, pourquoi pas. Bien fondre, transparent, simplement, pas brûlé, pas grillé. Vous jetez vos fans de radis, vous faites tomber, comme on dit,
faire tomber.
Comme les épinards. Quand ils sont tombés, c'est-à-dire qu'ils deviennent un peu fripouillés, mais toujours bien verts, à ce moment-là, vous mettez 1 litre de bouillon de volaille. Bien évidemment, soit vous l'avez fait à la maison, avec votre carcasse de poule, de poulet ou je sais pas trop quoi. Soit vous allez chercher un bon bouillon de volaille bio que vous trouvez dans toutes les épiceries bio qui se respectent. Vous laissez doucement mitonner 20 de minutes. Vous mixez.
On mixe.
Ouais, moi je préfère quand c'est mixé. Et puis si vous avez dans votre jardin ou à côté de vous quelques petites feuilles fraîche d'oseille, vous les rajoutez. Il y a la petite acidité
et de l'ortie même.
De l'ortie là en ce moment. N'hésitez pas, c'est délicieux. Par contre, bien lavé, ça fait des trucs très bizarres. L'ortie, hein.
Pas de bord de route parce que là, c'est sulfaté.
En plein champ. Et là, vous prenez juste les têtes.
Avec des gants parce que c'est urticant.
Ah bah oui, bien sûr.
Ou alors on respire pas.
Ou alors vous les faites faire par votre ennemi, vous faites cueillir ça comme ça par votre ennemi. Après.
Ah oui, pardon, c'est pas fini. Pardon, vas-y.
Donc, on brasse tout ça. Et puis, à la fin, si vous voulez, vous pouvez rajouter soit un peu de crème, soit un peu de sauce soja. Vous pouvez crémer légèrement si vous êtes au rue de Nord de la Loire. Si vous êtes au sud, vous faites comme vous voulez.
Mais on peut être au sud et aimer le potage crémé.
Voilà. Et je vous souhaite un bon appétit, bien évidemment.
Eh bien, merci. Et avec ça, est-ce qu'on peut boire un pur Syrah? Qu'est-ce qu'on boit sur cette soupe de...
On ne boit jamais avec la soupe puisque c'est du liquide.
On peut faire chabrou,
c'est que du rouge. Mais en chabrou,
on peut faire chabrou avec rosé, pourquoi pas, ça doit pas
marcher. Chabrou.
Chabrou, ça s'est fait avec du rouge.
Chabrou, c'est que du rouge. J'ai jamais essayé avec du rosé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui nous intéresse, c'est le goût et la transition entre la soupe très chaude et le vin qui est froid. Donc, on peut très bien mettre du rosé. Pourquoi pas?
Attention, the new experience. Qu'est-ce qu'on déguste? Le chabreau dans la soupe de fan de radis au rosé, pur syrah.
L'assiette est chaude.
On va essayer. C'est pas le but. Alors, on le trouve où le pur syrah, mais comme toute le reste de la gamme du domaine de Monteis, vous êtes un peu omniprésent, vous voit partout. Vous êtes aussi bien en supermarché que sur les tables des restaurants, que chez des cavistes, chez Monteis.
On est très peu en grande surface parce qu'on a pas assez de volume, mais par contre, on est présent en restaurant, dans certaines épiceries, et c'est vrai que notre cœur de marché, c'est quand même le Tarn-et-Garonne, quoi. Mmh. Voilà. Alors maintenant, on commence à avoir des restaurants sur Toulouse, dans l'Aveyron, un peu partout. Mais notre cœur de marché, c'est quand même le Tarn-et-Garonne.
Ça suffit à écouler production.
Ça suffit. C'est pour ça que chaque année, d'ailleurs, on plante des vignes. Et c'est pour ça qu'on a acheté un deuxième domaine viticole à Cahors, quoi.
Ouais.
C'est pour
ça. Rappelle-nous le nom.
Le domaine s'appelle Serre de Beauville. Ouais. Sur lequel j'espère bien faire des grands vins. Je dis bien des grands vins. Voilà.
Grands vins.
Ouais, des grands vins. Ouais. Voilà. En toute modestie.
Et donc, après, on vous retrouve quand même sur les marchés, puisque toi-même, mais ton frère aussi, se lève très tôt pour aller le jeudi à Villefranche-de-Rouergue.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ma mère a acheté la propriété en 73, c'était un domaine viticole qui vendait au négoce, à la Citerne. En 90, on s'est installé avec mon frère. On a développé nos vins sur les marchés parce que personne ne nous connaissait, personne ne voulait nos vins. Il n'y avait pas de représentants, il n'y avait pas de cavistes, personne ne voulait nos vins. Et c'est à force de boulot, de présence et de qualité qu'on est arrivé à vendre nos vins. Mais on n'a jamais lâché la clientèle marché parce que c'est une clientèle qui est fidèle, qui nous a fait vivre pendant des années. Et mon frère est sur tous les marchés, enfin sur 5 à 4 marchés par semaine. Et Dieu sait que...
Et il y en a qui viennent faire remplir le bib.
Exactement, leur cubi, qui achètent des bouteilles de plus en plus d'ailleurs, puisque le vrac se perd de plus en plus pour les bouteilles. Oui, bien sûr. Les gens consomment de moins en moins. Les papis qui étaient dans l'Aveyron, qui buvaient les 5 litres de vin par semaine, ceux-là ont disparu. Et on est sur une clientèle... Peut-être qu'il y a des nouveaux, mais enfin, ils sont de moins en moins nombreux quand même. Mais ce qui est certain, c'est que je peux vous jurer que être sur les marchés du 1er janvier au 31 décembre,
Philippe,
c'est quelque chose.
Ton vin, justement, de marché, le vin de Cubi, le vin de vrac, comme on dit, il fait combien? 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés?
Ça va de 10 degrés 5 à 11 degrés 5, en passant par des 12, en partant du principe que là aussi, encore une fois, on sélectionne dans les parcelles et on est capable d'avoir des parce que faut pas rêver, pour produire des 10 degrés 5, il faut que les vignes produisent du raisin. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rendu compte, que à l'inverse d'une mode qui était dans la concentration, dans le parkerisme, on va dire, c'est-à-dire de suivre la concentration outrance et ainsi de suite, on avait des vins à 14 degrés qui étaient très chers et qui étaient inconsommables parce que trop alcoolisés. On a toujours, nous, gardé cette clientèle de vins.
Si tu veux en boire beaucoup, faut pas quand même que ça que
mais même
que
si on boit beaucoup, quoi. Même si on boit beaucoup, tu peux boire un verre de vin tous les jours, un verre à 11 degrés, ça suffit amplement.
Non, mais si tu veux en boire 3.
Eh bien justement.
Autant que ça fasse que 10 degrés, tu vois, que tu puisses en boire.
Il y a une mode actuellement qui a été lancée, c'était le vin désalcoolisé.
Oui. Le vin plume dans les roues, ils font ça.
Exactement, ouais, que je connais, c'est un copain à moi d'ailleurs.
Ils ont une machine, alors ils font un vin normal, qui est très ensoleillé, et il est plutôt à 13 ou 14 degrés, et ils le passent dans un truc décompresseur, je sais pas quoi, et il tombe à 9 degrés 5.
Ouais.
Et alors moi, je leur en avais acheté quelques caisses, parce que c'est un peu comme le Picpoul de Pinet que tu bois sur à la mer et tu trouves que c'est vachement bon, t'en ramènes chez toi, tu te dis, oh, ça va être bien, je vais faire goûter ça aux copains. Et le vin plume à 9 degrés et demi, quoi, je pense que je dois encore en avoir des bouteilles, et ça doit faire au moins 10 ans.
Ça ne transforme pas les molécules ou je sais pas quoi.
C'est un processus chimique, enfin biologique plutôt, et qui enlève l'alcool, quoi, tout simplement. Hein, mais après.
Voilà. Ça passe à travers une membrane.
Est-ce qu'il vaut mieux pas encore du latex, un carbone plus important et un degré naturel moins important. Surtout qu'actuellement, on est capable de faire des vins sympas, légers.
Dans le micro. Il faut parler.
Donc je répète, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'avoir des rendements? Ça va. On m'entend trop d'ailleurs.
Il vaut mieux écouter les Doors. Alors, je peux avoir du pâté?
Ouais,
Si tu veux pas le pâté, vas-y.
Qui c'est qui fait des boutons dans le Saint-Gaudinois, là, d'ailleurs?
Le claviériste Ray Manzarek qui avait fondé... Le claviériste Ray Manzarek qui avait fondé en 1965 avec Jim Morrison le groupe des Doors est mort lundi 20 mai à l'âge de 74 ans. Bon, Ray Manzarek avait rencontré Jim Morrison alors qu'il suivait des études d'art. Ils ont ensuite décidé de former un groupe de rock et ça a été le groupe Doors, connu mondialement puisqu'ils ont vendu déjà plus de 100 millions de titres, de disques. Et ils ont fait des tubes comme The End, Rider on the Storm ou encore Ella Woman. Le claviériste a imprimé son style unique sur des sons de Doors et notamment dans les blues. Et ensuite, il avait quand même une technique où il a écouté beaucoup les claviers et les organistes jazz. Les Doors ont enregistré 8 albums. Jim Morrison est décédé à Paris en 1972. D'ailleurs, il est enterré à Paris au Père Lachaise. Et sa tombe est toujours fleurie chaque jour par des groupies qui petit à petit.
Elle a été vandalisée. Ils ont piqué le buste, mais il y a des années et des années. Il y a plus de 20 ans ou 25 ans, ils ont piqué le truc. Mais il y a des bougies.
Des bougies et des fleurs. Ouais.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un vigile qui à un moment a été payé exclusivement pour cette tombe-là et pour enlever tout en permanence pour essayer de faire en sorte que ça s'arrête ce truc de pèlerinage, mais ça continue. Ça continue.
Mais
il y a des barrières.
Ça fait depuis 150 ans.
Ah ouais, il y a des barrières.
Puis la mythologie du groupe a été renforcée par le film d'Oliver Stone, The Doors, qui est sorti en 1991, où l'acteur qui jouait Jim Morrison était vraiment...
Comment il s'appelait cet acteur? C'était vachement bien.
Je vois sa tête.
Si.
Je ne sais plus. Nous ne savons plus. Quel est l'auditeur qui va nous le dire?
Si vous le savez, vous...
De pure Syrah.
Vous le dites dans la chatbox de cfmradio.fr.
Ray Manzarek a fait plusieurs albums sous son nom et il avait repris un petit peu la scène avec l'ancien guitariste des Doors, Rob Krieger. Là, nous écoutons un titre qui s'appelle Changeling, où l'introduction est faite justement par Ray Manzarek qui officie au clavier.
Il est au téléphone.
Bien Fender ou Orgamon, les deux, les sons très jazz.
We'll be right back.
guitare psychédélique.
Ouais. Ouais. Mais ils avaient pris des trucs, là, quand même. Vas-y, monte le son. Eh, hey, et ça, c'était pas du pur Syrah qui se mettait sous la langue, là. Le clavier. Voilà. Écoute. C'est l'orgamon, quoi. C'est l'orgamon. Si, mais la nappe derrière, la nappe, c'est l'orgamon. Voilà, il est mort.
74 ans.
Ouais, 74 ans avec ce qui s'est mis, le mec, quand même.
Il a tenu un certain temps.
Voilà.
Bon, bah, alors on a d'espoir.
Bonjour, je voulais juste annoncer, c'est-à-dire The Changeling, une composition des Doors, et c'était sur extrait du disque L.A. Woman.
L.A. Woman.
LA, ouais.
Los Angeles.
Ouais.
Ouh, mais Eve, on voit que tu es une adepte des Doors. Tu as dansé comme une folle, les cheveux au vent,
mais
nu à la pleine lune.
Tu les vois, mes grandes nattes, là.
C'est
intemporel. Qui vole au vent.
Aïe, 6,95€, dites donc, pour un pur Syrah. Il faut boire frais quand même. Hein?
Obligatoirement. Ouais.
Il faut boire frais.
Oui, c'est le vin lui-même mérite ça, quoi. Parce que pas trop frais. Non. Allez, en dessous de 9 degrés, en dessous de 9, voire 8 degrés, nos papilles ne sont pas capables de détecter les arômes. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de boire glacé.
Si, parce que mes papilles font de la résistance.
Non, les papilles vont.
Excellent.
Oh, j'y crois pas. Je peux me permettre quand même. Trois bouteilles de pur Syrah. Moi, c'est la première fois que je joue une émission si euphorique. Voilà, c'est tout. J'ai que ça à dire.
Alors qu'on voit toujours avec modération.
C'est la qualité.
Justement,
ça veut dire que avec modération, c'est une euphorie phénoménale. Donc ça veut dire que le vin est très bon.
Modération, elle est souvent sous la table. Si tu veux.
Les projets du domaine de Montaigne. Ah si, ça y est, je suis content parce que depuis tout à l'heure, je suis sur la page Facebook de CFM et je me demandais mais quand est-ce que ça allait arriver cette photo. Et enfin, on a une photo en direct de Qu'est-ce qu'on déguste avec Philippe Romain et Christophe Bory. Oh putain, mais vous avez pris du poids hein, tous les deux, on dirait, non?
Nous voilà sur Facebook.
Là.
On est sur Facebook, on est mort. Voilà.
Christophe, t'es pas super à ton avantage. Je tiens à te le dire.
Ah, c'est la photo qui écrase, t'inquiète pas.
N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la photo.
Et tout le week-end. On te trouvera au salon d'événements Thomas, Philippe.
Bien sûr.
Les 15 et 16 juin, place Lalac.
Évidemment.
Organisé par Simon de la cave bio. Blanc.
Alors, qui c'est qu'il y aura ce...
Oh, il y a plein de monde, je crois. Il y a plus de 30 vignerons. Va sur la page Facebook.
Mais des vignerons d'ici, du
coup. Non, des vignerons de la France entière.
De partout. D'accord. Il va y avoir du champagne, il va y avoir des coteaux et terrasses de Montauban, bien entendu, qui viennent en voisin. Il va y avoir du Languedoc, il va y avoir Côte du Rhône. Va sur la page Facebook.
J'ai pas le temps.
Non.
Bon, d'accord.
Non, mais on ira. On recevra Simon pour ça.
Le principal, c'est que vous fassiez la promotion énorme de ce
salon. On va être lourd. Donc, 15 et 16 juin, samedi 15 et dimanche 16 juin, place Lalac. Alors, c'est fait au profit.
Il ne sait toujours pas parler dans un micro au bout de 5 ans d'émission de radio. C'est fatigant.
Mais il faut trouver des micros robotisés qui suivent la bouche. Regarde, c'est quand même. C'est pas difficile. Regarde, clac. Non, c'est pas au profit de la Ligue anti-alcoolique, c'est au profit de. Je sais plus comment il s'appelle.
Pierre et Paul, Charles et Georges, je ne sais plus comment il s'appelle.
Enfin, bon, l'entrée est 4 euros, mais ça vaudra vraiment le coup. Il y aura plein de vignerons, il y aura des coups à boire. Pierre Cantegruel, comme on l'appelle dorénavant, va faire à manger, je crois, des travers de porc, des choses comme ça.
Pour les premiers inscrits, justement.
Voilà.
Les 200 premiers. Voilà. Les autres, c'est sandwich.
Ça va être très bien. On va aller y camper.
VIP.
Nous, on est VIP.
Il nous reste pas beaucoup de temps, juste les projets de la maison Monteis.
Les projets?
Ouais.
Continuer à faire des bons vins.
Et développer
sur de beaux villas. Voilà. Non, mais honnêtement, c'est ça. On continue à faire des bons vins. On continue à être à être à la place où on est et on continue à progresser dans la qualité de nos vinifications. Il faut dire que j'ai une super équipe. J'ai des jeunes qui m'encadrent, qui m'entourent, qui me portent aussi parce que voilà, mon frère et moi on prend des années aussi hein, et quand on a l'équipe que j'ai derrière moi.
Ton frère est vieilli. Hein.
Ouais, mon frère est vieilli. Ouais. Oh. Il va être content.
Il a pris du bide, non.
Non, mon frère, j'ai encore, il est sacrément solide. Non. On c'est pas que deux personnes, hein, c'est pas qu'une famille. Maintenant, c'est une équipe. Et honnêtement, entre Serre de Beauvilla et Montels, il y a de quoi faire. Je vous dis, sur Serre de Beauvilla, on a comme objectif de faire un grand vin. Et c'est peu dire, hein, parce qu'on a un grand terroir. Hein. Et sur Montels, ben, le but, quand je vois qu'on est capable de faire une médaille d'or au Mondial du Rosé, on se dit qu'il y a un potentiel à exploiter encore, et que c'est pas fini, et que ça continue, et que tant mieux, et que je préfère que dans 10 ans on se retrouve ensemble là, et qu'on boive des coups ensemble.
Voilà. Ah, bah oui, mais j'espère.
Dans 10 ans,
j'espère bien. Quand toi tu pourras plus venir, tu nous enverras Astrid.
Exactement, je t'enverrai Astrid, je t'enverrai mon équipe, je t'enverrai tout le monde.
Hein ouais, mais on la voit pas souvent.
Non, la femme. Madame Montaigne n'est pas souvent là.
Madame Montaigne, elle est dans l'ombre. Mmh. Voilà. C'est moi qui suis à la radio.
Il en faut un.
Exactement.
Tu voulais juste parler d'une petite chose, mais il nous reste que 30 secondes.
De Winston McAneuf.
Ouais.
Mais non, mais alors, Chan, j'ai failli le faire ce soir aussi. La prochaine fois.
Juste deux mesures comme ça, là.
Oui, sinon, voilà. C'est Fixie, l'accordéoniste du groupe Java. Avec Winston McAneuf, donc ce grand rasta jamaïcain. D'accord. Le mélange est plutôt sympathique.
Et tu nous laisses ça en tapis, puis voilà. on va finir là-dessus.
Et moi, je vous parlerai la semaine prochaine d'un bouquin de cuisine familiale espagnole, La Movida, où il y a des recettes bien. Extraordinaires sur les œufs, le gazpacho, la paella de poisson.
Gazpacho, impérativement du parassi, sinon ça n'est pas.
Et voilà, gazpacho. Du parassi, du pain dur.
Mais pourquoi du pain pour le gazpacho?
La vraie recette du gazpacho en Espagne, il faut impérativement mettre du pain rassis.
Qui absorbe l'eau des tomates.
Et des concombres. Il y a toujours des concombres.
D'accord.
On en fera.
Mais. Quand est-ce qu'on fait une spéciale barbecue? Parce que il va falloir qu'on va avoir une.
Quand il pleuvra plus.
On a trouvé un partenaire.
Quand on aura du rosé piscine.
Je vous explique. On a trouvé un partenaire. On va offrir. Comment s'appelle le partenaire? Tu sais, Aurélien, toi?
Les maîtres du feu.
Voilà. Grâce aux maîtres du feu, nous allons offrir à nos auditeurs une plancha d'une valeur de 400 euros. Et donc, on va monter un petit business. On va sur le site internet cfmradio.fr. Vous cliquez sur, on a fait un truc. Là, vous cliquez là-dessus. Et vous rentrez votre recette de plancha ou de barbecue ou de truc. Et donc.
Pas pareil.
Eh ben,
un barbecue, c'est barbecue.
Ah oui, là,
barbecue.
Ça cautionne le carbone. Et ben, la plancha, c'est la cuisson.
T'as vu
planche.
Ce que t'as fait à cause de toi, le pur syrah, là?
Ouais. Ouais, c'est grave.
Je te félicite pas.
Non, je sais écoute, pas quels sont les produits chimiques qu'il y a là-dedans. Arrête un peu,
c'est
pareil, c'est les follicules.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Philippe Romain pour le pur syrah, médaillé d'or au mondial du rosé. Merci Ève de ta participation et de ta superbe recette. La semaine prochaine, nous nous retrouverons au Saveur d'Aubin. C'est un petit resto montalbanais rive gauche dont nous vous dirons des nouvelles. Salut.